C'est lors du repas pascal juif que Jésus rassemble ses disciples le jeudi soir pour leur faire ses adieux. Et il va faire mémoire avec eux, comme chaque année, de la Pâque de son peuple, la libération de l'esclavage d'Égypte. Nous entendons ce soir dans la première lecture le récit de ce repas pascal au moment de la sortie d'Égypte, en même temps que l'ordre d'instituer un mémorial chaque année pour garder cet événement. L'événement et sa mémoire sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre dans la Bible. Ce que Dieu a fait à un moment précis de l'histoire, eh bien, il veut que toutes les générations suivantes puissent le vivre d'une manière à chaque fois nouvelle. Cette Pâque de l'Égypte, elle a un double sens en fait. C'est la sortie de l'esclavage, le passage de l'esclavage à la liberté. Dieu a entendu le cri de son peuple et a décidé de venir le tirer de sa misère. Et puis, donc c'est le peuple vraiment qui vit ce passage. Mais la Pâque, c'est aussi, nous dit le texte, le passage du Seigneur. Dieu qui passe au milieu de l'Égypte pour accomplir son projet, alors qu'il passe par la mort des nouveau-nés, des premiers-nés d'Égypte, et par le salut de ceux qui sont appelés à la liberté. Alors Jésus sait qu'il a une Pâque à vivre, un passage par la mort du premier-né. Il est, lui, le premier-né qui va donner sa vie. Donc il ne s'agit plus du premier-né des Égyptiens, mais le Fils unique de Dieu, qui va s'offrir pour le salut d'une multitude. Conduire finalement cette multitude de ceux qui recevront son salut à de l'esclavage du péché, à la liberté des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous vivons lorsque nous recevons le baptême. Et ce passage, eh bien, Jésus le vit par anticipation, le soir du jeudi saint. Il livre son testament à ses disciples à ce moment-là, un testament en parole et en acte, qui rassemble finalement toute sa vie, toute sa mission en quelques gestes lourds de sens. Et en même temps, ce testament, eh bien, il prépare et il anticipe sa propre mort. Il va mourir en donnant sa vie. Il va offrir cette vie à l'humanité et apporter ainsi aux hommes un salut qu'ils ne peuvent pas s'offrir par eux-mêmes. Dans ce testament, Jésus annonce donc que sa mort sera dans la ligne de son existence. Elle ne lui sera pas volée, il s'y prépare, il sait pourquoi il est venu. Il veut être libre jusqu'au bout et en faire un acte suprême, s'abaisser librement, faire ce que nul ne peut l'obliger à faire, se livrer entre les mains des hommes. Et il va commencer par se livrer entre les mains de ses disciples par le pain et le vin. Le pain et le vin ne sont pas choisis au hasard. Ce sont la nourriture et la boisson typiques du bassin méditerranéen. Ils représentent bien sûr le fruit de la terre, du blé, de la vigne, mais aussi le fruit de la culture, de l'agriculture d'abord, et puis du savoir-faire humain. La culture de la vigne et du blé sont nées au commencement de la civilisation humaine, à l'ère du néolithique. Et depuis des siècles, eh bien, tout un savoir-faire s'est développé pour leur transformation en nourriture et en boisson. Le pain est devenu dans beaucoup de civilisations la nourriture de base. Il est le fruit d'un long travail humain, récolté. Le blé, d'abord le semer, récolter, moudre le grain pour en faire de la farine, pétrir la pâte, la faire lever, la faire cuire. Et on pense qu'à l'époque de Jésus, les femmes passaient une grande partie de leur journée à préparer le pain quotidien pour chaque maisonnée. Le pain reconstitue les forces du corps. Il est donc le symbole de la nourriture dont nous avons tous besoin, nourriture nécessaire à la vie, quelquefois à la survie quand on en manque. Et le vin est aussi enraciné dans la culture du bassin méditerranéen. Il est le fruit aussi d'un savoir-faire ancien. On sait aussi la complexité du travail de la vigne, le soin que cela demande. La Bible chante la vigne comme un symbole du peuple, de Dieu et de la terre promise. Le pain et le vin nous ramènent donc à la fois à l'acte créateur de Dieu, au commencement, ce que Dieu a donné par la nature, et puis en même temps, vous voyez, à toute cette histoire, à tout le travail de l'homme, à la capacité finalement de l'homme de poursuivre l'œuvre de création. Donc c'est tout cela que Jésus prend dans ses mains. Voilà, c'est la création de Dieu et la création des hommes. Et ce pain et ce vin, eh bien, ils sont pour la vie et pour la joie. Et Jésus ne se contente pas de bénir Dieu, voilà ce que fait tout croyant juif, de bénir Dieu pour la vie et ses dons. Il va plus loin, il va faire de ce pain et ce vin sa présence, la présence du don de sa vie. Un geste destiné à être répété en mémoire de lui. Le pain devient la présence de son corps, de sa personne, de son être. Le corps, c'est l'être en relation. Le corps, c'est notre incarnation, ce que nous sommes. Nous ne sommes rien sans notre corps. Et puis le sang, c'est la vie qui circule en nous, la vie qui apporte à tous nos membres ce qui est nécessaire pour agir. Alors l'Eucharistie, que nous célébrons, dans toutes les églises du monde, elle part donc du blé, de la vigne, de la création. Elle prend en compte le travail des hommes, et puis elle veut conduire à Dieu tout cela, toute cette vie, toute l'existence, par le corps du Christ. C'est l'ultime transformation finalement, à laquelle nous sommes appelés, de passer de la création à la recréation dans l'éternité, de devenir au fond présence de Dieu dans l'univers. C'est l'annonce aussi que toute la création est appelée à entrer dans la gloire, que toute la création attend sa libération, attend la révélation des fils de Dieu, comme dit saint Paul, continuant de souffrir les épreuves. Le pain et le vin, auxquels nous communions, nous renvoient aussi à la souffrance, à la fin, aux fins de l'humanité, au manque de vie, au manque de joie, à la misère qui peut abîmer des vies qui ne peuvent pas parvenir à réaliser leur humanité. Alors il y a le geste du serviteur, le lavement des pieds, comme signe de la direction que Jésus veut donner à l'humanité, celle du service, qui est la véritable grandeur. Vivre, c'est donner la vie, donner sa vie, parce qu'on a reçu la vie, parce qu'elle nous a été donnée. Vivre, c'est aimer, parce que notre vie est le fruit de l'amour. Vivre nous apprend à voir l'autre comme un frère et une sœur. Alors, quelle est la portée de ces gestes de Jésus dans l'histoire de l'humanité? On pourrait dire que ça n'a rien changé à l'ordre du monde, que le monde romain a continué comme avant. Et pourtant, il y a une efficacité réelle au geste de Jésus lorsque ceux à qui il est destiné le reçoivent et le reprennent et en font leur propre geste. L'Église est fondée sur ces gestes. L'Église, elle est vraiment l'institution qui garde mémoire de ces actes ultimes de Jésus, de ce don de lui-même. Et nous avons, nous aussi, chacun d'entre nous, à garder vivante cette mémoire de Jésus pour le rendre vivant au milieu de nous, au milieu des hommes. Amen.